Les séminaires du Collège de France.
Bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être fidèles à ce séminaire Sacrifice en comparaison. Donc, c'est un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir, dans le cadre de mon séminaire, Hocine Benkeira, qui va ouvrir la discussion, et Anne-Caroline Rendu-Loisel. Et je tiens notamment à remercier vivement ces deux collègues qui ont joué le jeu de du titre commun, du titre partagé pour leur intervention, montrant par là évidemment l'optique de la discussion comparatiste qui est la mienne. Donc nous allons aujourd'hui nous partager entre des traditions issues de l'islam et des traditions documentées par des tablettes cunéiformes. Donc c'est une forme d'écart à nouveau, hein, qui est bien dans l'esprit de ce que nous faisons depuis le début de ces séminaires. Donc je vais vous présenter brièvement mon premier invité, Hocine Benkeira, qui est directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études, où il a dispensé des séminaires pendant pas mal d'années sur une chaire, dans le cadre d'une chaire intitulée Formation des doctrines juridiques et du rituel en islam, 7e-15e siècle. C'est donc, comme le nom de la chaire l'indique, un spécialiste du droit musulman et des grands textes juridiques de l'islam classique, comme l'atteste son ouvrage intitulé, le titre est magnifique, vous avez un vrai génie des titres, L'amour de la loi, essai sur la normativité en islam, mais aussi dans un autre registre, mais qui met en jeu la casuistique qui a pour objet le célibat, un ouvrage intitulé « La maîtrise de la concupiscence, mariage, célibat et continence sexuelle en islam, des origines au XVIe siècle ». Mais évidemment, ce qui m'a tout particulièrement intéressée dans la production éditoriale de Hocine Benkeira, c'est son attention au rituel, comme le titre de sa chaire le laisse entendre, à côté du volet du droit, et plus particulièrement son intérêt pour le sacrifice, pour la boucherie sacrificielle et le rapport à la viande, c'est-à-dire toutes choses qui interviennent évidemment dans ma propre réflexion sur le sacrifice grec. Il a notamment publié un ouvrage intitulé « Islam et interdits alimentaires, juguler l'animalité ». Et, par exemple, parmi une production abondante, un article dans la revue L'Homme, une prestigieuse revue L'Homme, « Lier et séparer les fonctions rituelles de la viande dans le monde islamisé ». Et ce qui avait d'abord attiré mon attention, c'était une publication collective qui s'intitule « Sacrifice en islam », sacrifice étant au pluriel, publication à laquelle il a collaboré et qui était dirigée par Pierre Bonte, Anne-Marie Brisbard et Altan Golak. Donc, un intérêt pour ces questions qui nous occupent, avec aussi en 2023 l'édition d'un collectif en collaboration avec Silvio De Franceschi qui s'intitule « La dîme du corps », quand je vous disais qu'il y avait un vrai génie des titres, « La dîme du corps, doctrine et pratique du jeûne ». Donc voilà, tout un arrière-plan qui justifie bien sûr l'envie que j'ai eue et qui explique l'envie que j'ai eue d'entendre Hocine Benkeira dans le cadre de cette réflexion sur les sacrifices en comparaison. Et je lui donne tout de suite la parole.
Je vous remercie, chère Vinciane. Alors,
vous entendez bien au fond ?
Je vais vous présenter un sujet qui est assez unique dans mes études, dans la mesure où il s'agit d'un sacrifice particulier. C'est un sacrifice qui est lié à la naissance, et donc c'est un sacrifice qui n'est pas très connu d'ailleurs, Même beaucoup de musulmans ne le connaissent pas vraiment, ils peuvent en avoir entendu parler, mais j'ai vu il y a quelques années, j'étais chez mon dentiste, je feuilletais un magazine, puis je suis tombé sur un article qui parlait du roi du Maroc, disant qu'il célébrait la cérémonie, ce sacrifice s'appelle Ariqa. Et il disait, le roi du Maroc a célébré la Ariqa pour son fils, celui qui est maintenant, qui est prêt à lui succéder. J'ai été surpris, je me suis dit, tiens, ils rétablissent, ils restaurent les vieux usages. Alors, c'est un sacrifice qui a une particularité par rapport au sacrifice le plus connu, celui qui a lieu au cours du pèlerinage. C'est un sacrifice qui ne s'inscrit pas dans le culte. Il ne constitue pas, à proprement parler, une pratique cultuelle. C'est ça son intérêt. Alors la question qui se pose immédiatement, pour quelqu'un qui a un peu fréquenté l'anthropologie, la science anthropologique, c'est de se demander s'il s'agit d'un sacrifice, s'il ne s'agit pas d'un sacrifice qui a été islamisé a posteriori. Parce qu'il a vraiment un contenu, parfois, ce sacrifice a parfois un contenu qu'on pourrait qualifier de païen aux yeux des musulmans. Et d'ailleurs, des débats ont eu lieu assez tôt parmi les savants musulmans, parmi les docteurs de la loi, pour essayer non pas de le supprimer, de l'abolir, de le combattre, mais plutôt pour le rendre conforme à la théologie de l'islam. Et donc, je vais vous décrire, c'est-à-dire que les sources sur lesquelles, je dois tout de suite le préciser, les sources sur lesquelles je m'appuie, sont ces fameuses traditions qui remontent au 9e siècle, généralement, quand je dis remontent au 9e siècle, c'est-à-dire, nous avons des preuves qu'au 9e siècle, ces traditions étaient recueillies dans des compilations qui étaient éditées. Au 9e siècle, le papier était déjà en usage, c'était une découverte récente, mais il était déjà en usage dans les milieux religieux et dans les milieux intellectuels en général. Mais ces traditions peuvent dater d'une période où l'oralité dominait, hein, c'est-à-dire le siècle précédent. Mais on n'est pas certain, ça reste très, très aléatoire comme discussion. Il y a beaucoup de conjectures, on a très très peu de certitudes là-dessus. Alors, donc, ces traditions sont, j'ai l'habitude de les classer en trois catégories. Les traditions les plus connues, celles qui sont imputées aux prophètes de l'islam. Là, c'est les traditions les plus connues, les musulmans, les fidèles, pour eux, il n'y a que ça qui a autorité. Hein. Mais il y a un certain nombre de traditions qui sont imputées à ceux qu'on appelle les compagnons, c'est-à-dire les disciples du prophète. Et voire même, on a une troisième catégorie de traditions. Celles-là, elles sont parfois très intéressantes. Ce sont les traditions qui sont imputées à des individus, des personnages qui vivaient à la fin du 7e siècle et au début du 8e siècle. Donc la période, en gros, c'est la fin de la période omeyyade. Alors, il n'y a pas évidemment de manuscrits, ni sous forme de parchemin, ni papyrus, qui attestent de cela. Hein. Ce qu'on a, c'est la transmission orale. Alors, on a tendance parfois à critiquer, à être très radical et à dire « Ah non, c'est des inventions, etc. etc. » Mais il y avait déjà des procédés de transmission qui étaient assez organisés, assez réfléchis et qui étaient établis et qui vont être, ces procédés vont être repris par les docteurs de la loi en islam pour être utilisés pour leur propre compte. Hein. Donc c'est pour ça que je pense quand même qu'il y a un certain nombre de traditions qui sont... Alors les traditions attribuées aux prophètes, voire aux compagnons, sont... On a le droit d'être très sceptique à ce sujet-là. Mais les traditions attribuées à cette génération donc, qui a vécu à la fin du 7e, début du 8e siècle, alors là, il y a de fortes chances que ces traditions soient, dans l'ensemble, correctes. Donc, mais quoi qu'il en soit, même les traditions du prophète, je m'appuie dessus, parce qu'elles contiennent beaucoup d'informations, et il s'agit de savoir les lire. Alors donc, je vais commencer par vous présenter un certain nombre de traditions. Alors j'ai classé les traditions qui sont attribuées au prophète, je les ai classées selon des thèmes, généraux. Alors, le premier groupe, ça consiste à donner une description, ce sont les traditions qui décrivent de manière générale ce rituel. Alors, on fait dire donc au prophète, on devra égorger pour l'enfant une victime le 7e jour. Donc là, nous avons déjà une idée, c'est le 7e jour que ça se passe. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ça, c'est une information importante. Hein. Ensuite, lui raser la tête. Hein. Donc le 7e jour après la naissance. Hein. Et lui donner un nom. C'est-à-dire ce qu'on appelle en arabe le ism, ce qui correspond à peu près au prénom en français. C'est-à-dire, c'est le nom qui va, vous savez, le nom arabe, l'individu est appelé par un nom, et pour le définir de façon précise, il est rapporté à son père, d'où le fameux Ibn. Hein. Donc, le Ibn désigne la filiation plutôt, hein, c'est la filiation, et tandis que le ism réel, c'est le nom que la personne reçoit à ce moment-là. Alors, il y a une seconde tradition qui est très intéressante, puisqu'elle est exactement semblable à celle que je viens de vous présenter, avec un élément qui va varier. Et là, c'est un élément tout à fait intéressant. Alors, il s'agit d'un témoin qui dit « Le prophète a commandé de procéder au sacrifice Hariqa, donc celui du 7e jour, de le débarrasser du mal et de lui attribuer un nom. » Je vous fais remarquer ici que quand on compare les deux traditions, en deuxième place, on avait le rasage de la tête. Ici, en deuxième place, on a débarrassé l'enfant du mal. Vous voyez, une piste intéressante ici, c'est-à-dire qu'on a le sentiment, que les cheveux sont associés au mal. Alors ici, le mal, c'est pas le mal métaphysique ou le démon ou je ne sais quoi. Hein. Le mal ici, c'est uniquement la menace qui peut nuire à l'enfant. Alors, le terme qui est utilisé pour désigner, je ne vais pas me lancer dans une analyse lexicographique, mais le terme qui est utilisé pour désigner le mal dans cette tradition, c'est exactement le terme que le Coran utilise pour qualifier le sang menstruel. Hein ? Vous voyez l'intérêt de cette comparaison. Hein ? Donc, on a en quelque sorte l'explication, j'en suis convaincu, l'explication pour laquelle le débarrasser, en fait, ce sont les cheveux de l'enfant, les petits cheveux intra-utérins, hein, ceux qu'il avait quand il était dans le ventre de sa mère, et dont il faut le débarrasser, hein, parce qu'ils sont liés, en fait, à l'utérus maternel. Et donc, tout cela, je le dis tout de suite, je dévoile un petit peu une partie de mon interprétation, dans une société extrêmement patrilinéaire. Hein? La société arabe ancienne est une société qui est bâtie principalement, on ne reconnaît pas de filiation matrilinéaire. On admet que l'homme, que la, et encore, ça c'est pas le, la société arabe ancienne, la société arabe, pour la société arabe ancienne, l'enfant est l'œuvre de son père. Hein? L'enfant est l'œuvre de son père. En islam, ça va un petit peu changer, on va reconnaître, on va admettre le rôle que joue, un peu dans la perspective, là c'est le rôle de la médecine grecque et galien, un peu dans la perspective de Galien, à savoir que l'homme et la femme produisent le fœtus. Donc c'est pas uniquement l'homme qui agit. Mais dans la perspective arabe ancienne, très ancienne, il n'y avait que l'homme qui était véritablement, disons, qui était la cause de l'enfant. Hein. D'ailleurs, ça jouait un rôle également dans l'allaitement. Hein, parce que l'homme est présenté, il y a même un adage sur lequel l'homme est à l'origine du lait maternel. Deuxième observation qu'on peut faire, on remarque qu'il y a un problème qui se pose. Ce sacrifice était-il fait pour tout enfant, pour tout nouveau-né, bien était-il fait seulement pour les petits garçons? C'est une question qui se pose, qui est posée par les textes. Hein? Alors là, il semble que les Arabes anciens, pour les Arabes anciens, donc selon moi, ce sacrifice est une pratique ancienne parmi les Arabes. Le sacrifice n'était fait que pour les garçons. Il n'était pas fait pour les filles. Sans doute, alors, là aussi, il y aurait une raison, une explication, disons, de type anthropologique, c'est-à-dire que seule la filiation, la transmission de la filiation n'est pas liée aux filles. Elle passe par les garçons. Donc c'est le garçon qu'il faut protéger principalement. C'est lui qui est le plus menacé. Les filles ne sont pas menacées, donc c'est pas nécessaire de... Mais là encore, on voit comment l'islam intervient et essaye de rétablir une sorte d'équité entre les filles et garçons. Alors on a des propos attribués aux prophètes ou bien à des autorités. Alors soit qu'il faut sacrifier pour la fille et pour le petit garçon, pour la petite fille et le petit garçon, soit alors un rétablissement de l'équité, mais avec quand même la supériorité des garçons, c'est on sacrifiera deux bêtes pour le garçon, une seule bête pour la petite fille. Maintenant, venons-en, on a un certain nombre de textes qui qui essayent d'expliquer la finalité ou la signification de ce sacrifice. Alors, je vous ai déjà parlé de celui qui évoque le fait d'éloigner le mâle du nouveau-né. Alors, on a dans ce sens un propos attribué toujours au prophète. Hein, pour le nouveau-né mâle, le roulem en arabe, il faut un sacrifice, verser pour lui le sang, et là on a explicitement une façon de désigner le sacrifice qui est intéressante parce qu'il s'agit de verser du sang. Et éloigner de lui ainsi le mal, c'est-à-dire que c'est le fait de verser le sang de l'animal qui éloigne de lui le mal. Alors d'ailleurs, un de ces personnages du début du 8e siècle, qui était de Basra, de la ville de Basra, qui est très connu en islam, qui s'appelle Ibn Sirin, dit « Si écarter de l'enfant le mal, ce n'est pas lui raser le crâne, je ne vois pas ce que cela signifie. » Donc c'est le fait de raser le crâne qui éloigne de l'enfant le mal. Alors on peut trouver, je fais juste une petite parenthèse, on peut trouver une explication de type, je ne sais plus comment on dit déjà, c'est-à-dire utilitaire. Une explication de type utilitaire de ce sacrifice, c'est qu'il s'agirait d'un rituel dans la mesure où les enfants, le taux de mortalité des enfants est très élevé au début. Hein? Alors, précisément pour parer à cette menace, on pratique le sacrifice le septième jour. Hein? Donc ce serait une explication un peu de type utilitaire. Je ne sais pas si je ne suis pas en mesure de... Et là, on n'a pas beaucoup de données, les taux de mortalité des enfants en bas âge, pour voir si ça a vraiment du sens. Alors, il y a une idée ici qui apparaît, c'est qu'il y a d'une part, rappelez-vous là ce que je viens de dire, c'est-à-dire c'est en versant le sang de l'animal qu'on sacrifie, qu'on protège le nouveau-né du mal qui le menace. Mais en même temps, on le débarrasse de ses cheveux qui sont supposément imbibés ou qui ont été en contact avec le sang maternel. Alors, on peut, dans ce cas-ci, on peut penser que ce qui est mauvais, c'est le sang maternel. Alors, c'est dit au 9e siècle, il y a un docteur qui le dit très explicitement, il parle du sang utérin, il dit le sang de l'utérus, d'Emma Rahim. Hein. C'est-à-dire que on débarrasse l'enfant du sang maternel, pas seulement en rasant sa chevelure, mais également en versant le sang de la victime. Alors ici, entre en ligne de compte un autre aspect de ce rituel, c'est qu'on parle de mise en gage de l'enfant. On dit que l'enfant, la formule arabe, c'est celle-là, marhoun bi'aqiqatihi. Ce qui veut dire, marhoun veut dire, il est mis en gage, il est gagé. Alors, qu'est-ce qui le libérera de ce gage? Eh bien, c'est le sacrifice. En somme, tout individu qui naît avec une obligation, c'est ce que, de façon plus générale, on peut généraliser, tout individu qui naît, il naît avec une obligation qui lui incombe d'accomplir ce sacrifice. Mais comme il n'est pas apte à l'accomplir étant donné son âge, c'est le père ou les parents qui se chargent de ce sacrifice. Donc vous voyez, donc, il y a une sorte d'obligation. D'obligation, c'est-à-dire en venant à la vie, on a une obligation. Hein, et on doit la payer en quelque sorte, on doit la quitter. Alors, c'est à cette occasion-là que naît un débat qui met en cause l'orthodoxie sur le plan religieux de ce rituel. Parce que un personnage qui est mort au début du 8e siècle décrit ainsi le sacrifice. Il dit, après l'immolation de la victime, on prendra un peu de sa laine, la laine de la victime, que l'on appliquera contre la gorge qui est éventrée, donc pour recueillir du sang de la victime. Et ensuite, on posera ce petit bout de laine imbibé du sang de la bête, on le posera sur le crâne de l'enfant, afin que s'en écoule, on doit s'arranger pour que s'écoule un mince filet de sang. Après cela, on devra laver la tête de l'enfant avant de la raser. Donc il faut le mettre en contact avec le sang. Et ça, évidemment, ça a tout de suite posé... poser un sacré problème pour des monothéistes. Comment cela se peut-il de procéder à... C'est-à-dire que c'est le sang lui-même qui est puissant. Hein. Donc, ça devient... Ça a donné lieu à un débat et on a essayé, bien sûr, d'atténuer... en conservant le rituel, on a essayé d'atténuer, on a dit non... on ne versera pas, on ne mettra pas de sang sur la tête de l'enfant, on mettra de l'eau imbibée de safran. Hein, on aura la couleur un petit peu proche de celle du sang, proche un peu. Ce sera quelque chose d'original, enfin de particulier, voilà. C'est une couleur, enfin ça donne une couleur. Puis bon, ça remplacera le sang, quoi. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque individu né avec l'obligation de procéder à ce sacrifice, c'est-à-dire né avec une obligation, et la façon de payer cette obligation, de s'en acquitter, c'est de procéder à un sacrifice. Alors, ce sont les parents qui procèdent au sacrifice, père ou grand-père, mais que se passe-t-il dans le cas où l'enfant ou personne n'a procédé au sacrifice ? Eh bien, c'est le sujet lui-même, à partir d'un certain âge, qui procédera lui-même au sacrifice pour lui-même. Donc on a le temps quand même, mais là ça prend beaucoup de liberté avec le rituel, parce que le rituel devait se dérouler dans les 7 premiers jours. Et là on n'est plus dans les 7 premiers jours, puisqu'on cite l'exemple du prophète qui aurait procédé lui-même à l'âge de 40 ans à ce sacrifice pour lui-même. Donc ça paraît un peu... pas très... c'est pas très convaincant comme... ou alors c'est une tentative de vider le rituel de toute signification. Alors le thème du gage ou de l'otage, hein, gage ici doit être entendu au sens d'otage, hein, on est pris en otage, l'enfant est pris en otage. Alors c'est un thème qui revient fréquemment, hein. On a, par exemple, on fait dire au prophète, le petit garçon est engagé et gagé en échange de la victime qui doit être mise à mort à sa place. Alors, j'espère que je traduis correctement, parce qu'effectivement, il s'agit d'une formule, anhu, ça pourrait être traduit à sa place, ou pour lui. Je me suis permis de traduire à sa place, ça a plus de force, même si ça peut donner l'idée de la substitution d'un sacrifice. Un sacrifice animal est substitué à un sacrifice humain. Alors, on a même des textes sur lesquels, si on ne peut pas procéder le 7e jour, on procédera la 2e semaine, sinon la 3e semaine, hein, le 21e jour. Alors, il y a un autre thème qui apparaît dans ce... un autre thème intéressant, c'est la tentative de faire un usage symbolique des cheveux de l'enfant. Alors, vous allez voir ce que je veux dire par là. Alors, on fait dire au prophète, il aurait dit à sa fille, excusez-moi, mon téléphone se met à sonner tout seul. Voilà. Alors, on fait dire donc au prophète, il s'adresse à sa fille, c'est la fille la plus connue, Fatima. Il lui dit, à propos, à la naissance de son aîné, il lui dit, rase-lui la tête, ce qui correspond aux traditions qu'on vient de voir, à peu près. Mais l'innovation, c'est celle-ci, et donne, en guise d'aumône, le poids de ses cheveux en argent, argent métal. Hein. Donc, on rase les cheveux, on pèse les cheveux qu'on a rasés. À mon avis, ça ne doit pas peser beaucoup, beaucoup. Et donc, l'équivalent est donné en argent. Voilà. Et donné, c'est-à-dire que c'est une la charité. Alors, un autre thème qui vient, c'est celui de la façon de traiter la victime et surtout l'interdit de lui briser les os. On doit découper la victime sans lui briser les os. Hein. C'est-à-dire on doit conserver les os en bon état. Et cette interdiction a également donné lieu à une controverse parce qu'elle sous-entendait quelque chose qui remettait en question la toute-puissance divine. Alors notamment le fait qu'on ait tendance à... Alors, est-ce que c'est l'interprétation correcte du rituel païen, disons pré-islamique, ou est-ce que c'est une interprétation qui a été mise en circulation, à savoir que on ne brise pas les os de la victime, parce que la victime représentant l'enfant, dans ce cas-ci, on déplace un petit peu, c'est plus le gage, c'est plus l'otage, l'enfant n'est plus l'otage. C'est autre chose, c'est-à-dire qu'en tuant la bête, c'est comme si on tuait l'enfant lui-même, mais comme c'est pas lui qu'on tue, donc finalement, on le tue sans le tuer, quoi. Et à ce moment-là, malgré tout, il faut éviter de briser les os de la victime pour ne pas porter malheur à l'enfant. Alors, un récit qui renvoie au passé, à la période pré-islamique, les usages du sang de la victime. Alors quelqu'un, un témoin rapporte, dit « Avant l'islam, quand un garçon naissait chez l'un de nous, il immolait un ovin et badigeonnait la tête de l'enfant avec le sang de la victime. » Voilà, c'était avant l'islam. Du coup, vous comprenez très bien qu'il s'agit de disqualifier... Hein, tout usage du sang hein, pour badigeonner, en mettre sur la tête, etc., etc. Après l'avènement de l'islam, nous avons continué à immoler un ovin, nous rasions la tête du nouveau-né et la badigeonnions à l'aide de safran. Voilà, le safran a pris la place du sang. Donc, Mais ça renvoie, je ne pense pas que ce soit une invention qu'ils aient inventé ce rituel où on utilisait le sang pour badigeonner la tête de l'enfant. Ça paraît tout à fait vraisemblable. Mais le matériel qu'on a n'est pas suffisant. Alors, autre chose, il semble qu'au début, on était tout à fait hostile au sacrifice pour les petites filles. On a plusieurs personnages qui disent on ne devra pas procéder au sacrifice pour la petite fille. On ne procédera au sacrifice que pour le petit garçon. Donc ce qui montre bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, le concept absolutiste de la patrilinéarité arabe ancienne, hein, c'est-à-dire il n'y a que les hommes qui comptent, les femmes ne comptent pas. Hein, parce qu'elles ne portent pas la filiation, elles ne transmettent pas la filiation. Mais cette, on le voit dans les textes, hein, cet attachement à une tradition très ancienne a fini par être ébranlé. Et alors, on n'a pas établi une égalité entre hommes et femmes complète, puisqu'on procédera au sacrifice. Il y aura une égalité dans la mesure où on procédera au sacrifice à la fois pour un garçon et pour une fille. Mais simplement, on va doubler le nombre de bêtes qu'on tue pour un garçon hein, par rapport à une fille. On dira on tue deux animaux pour deux victimes pour le garçon et une victime pour la fille. Ce qui permet de rétablir la, le déséquilibre, la symétrie entre les deux. Alors, quant à l'interdiction de casser les os de briser les os de la victime, elle est attestée au début du 8e siècle. Donc, on voit bien que on a affaire à un rituel ancien, un rituel pré-islamique qui a été progressivement intégré dans le cadre islamique. Et donc tous les éléments n'ont pas été mis en place dès le début. On a mis du temps, c'est-à-dire quand je dis dès le début, c'est-à-dire le 8e siècle, parce que c'est un constat et en même temps une thèse. L'islam ne commence réellement à exister qu'au 8e siècle. Avant, l'islam apparemment n'existait pas. Je dis bien apparemment parce qu'on n'a pas d'informations, on n'a aucune information sur ses pratiques culturelles, sur ses pratiques rituelles, sur ses conceptions théologiques, hormis ce qu'il y a dans le Coran. Mais le Coran, c'est un autre problème. Alors, sur ses conceptions juridiques et tout. Donc c'est au 8e siècle qu'a réellement été inventé, au début du 8e siècle, au tout début du 8e siècle, qu'a été réellement inventé l'islam qui a évolué jusqu'à nos jours. Avant, il n'y avait rien, on n'a rien. Voilà, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant de relever qu'au début du 8e siècle, ce rituel a été déjà intégré, mais on continuait à conserver un certain nombre de conceptions qui dataient de la période pré-islamique. Alors, un autre élément, c'est-à-dire que ce sont surtout, parce que les auteurs musulmans du 9e siècle, ceux qui abordent ce sujet-là, pour eux, il n'y a pas de chronologie. La chronologie, ça n'existe pas pour eux, hein. En tout cas, dans le domaine des croyances, des idées, des représentations, hein. Pour eux, toutes les époques vivent dans la même synchronie, hein, sur le plan des conceptions. Et alors, donc, pour eux, ils discutent avec, ils polémiquent avec quelqu'un qui est mort au début du 8e siècle, hein, comme s'il était leur contemporain, vous voyez. Donc, et ce qui fait que ça fait apparaître en même temps la nouveauté de ce qu'ils disent et le caractère ancien de ce qu'ils critiquent. Ils critiquent des pratiques qui ne sont plus de leur époque, mais ils les présentent comme étant de leur époque, parce qu'effectivement, ils trouvent ça dans des textes, hein. On a un tel qui disait qu'il faut badigeonner la tête de l'enfant avec du sang, etc., etc. Et pour eux, ça, c'est absolument abominable au 9e siècle, hein, c'est quelque chose d'abominable. Ils critiquent tout ça, hein, personne ne défend cette pratique. Alors voilà un exemple, une citation, un personnage d'ailleurs réputé, mais bon, qui est, les propos qu'on lui attribue, c'est-à-dire l'attribution est sujette à caution. Alors, ce personnage dit, dans le passé, les gens badigeonnaient le crâne de l'enfant avec le sang de la victime, dans le passé. Mais mon père disait que c'était là de l'associationnisme. Hein. Crime, par excellence, en arabe on appelle ça shirk, c'est le fait d'associer des puissances à Dieu. Et donc, voilà, en badigeonnant le crâne de l'enfant avec du sang, on associe à Dieu des puissances. Des puissances quelconques, peut-être des puissances maléfiques, etc. Et on insiste beaucoup sur cet aspect parce que on veut se démarquer par rapport à cette pratique. Alors, il y a un autre élément qui est important que je dois signaler en tout cas, c'est que fait-on de la victime ? Alors là, s'impose la comparaison avec la victime du sacrifice du pèlerinage. Alors la victime, je parle le sacrifice qui a lieu une fois par an de façon rituelle, il a lieu pendant le pèlerinage. Mais les autres musulmans qui y procèdent le font par imitation et parce que bon, c'est considéré comme une bonne action, mais il n'a pas de signification religieuse importante. Là où il a une signification religieuse importante, c'est quand il a lieu à la Mecque et accompli par le pèlerin. Si quelqu'un d'autre que les pèlerins l'accomplit, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Et les pèlerins, quand ils accomplissent le sacrifice pour finir, parce que c'est l'étape finale du pèlerinage, quand ils accomplissent ce sacrifice, ils ne doivent pas en manger. Ils ne doivent pas, il leur est interdit d'en manger. Hein. Alors, ce qui a posé d'ailleurs des problèmes à un moment au pèlerinage, quand les pèlerins se sont multipliés, on avait des carcasses, des milliers de carcasses, que même les Saoudiens, avec tous leurs efforts, ne pouvaient consommer. Donc je crois que maintenant, ils en font un usage, enfin ils essaient, ils ont trouvé des astuces. Alors, donc on devait offrir, les carcasses devaient être offertes à des démunis. Mais les démunis à la Mecque, c'est pas des quantités, c'est pas des quantités innombrables. Hein. Dans le cas du sacrifice Aqiqa, on a le droit de manger. Il est même conseillé, recommandé, de partager la victime avec ses parents, avec ses voisins, etc. Ou des invités, etc., etc. Par contre, là où c'est ce qui est interdit pour la victime de ce sacrifice, c'est d'en faire l'aumône, c'est-à-dire de dire, bon, moi je ne vais pas manger, ça ne m'intéresse pas, je vais donner ça en aumône, en guise d'aumône, hein, à des pauvres dans mon quartier, voilà. Eh bien ça c'est interdit, ça n'a pas de valeur d'aumône, ça ne peut pas avoir la valeur d'une aumône. Hein. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce détail, j'insiste juste les règles rituelles qui organisent ce sacrifice. Alors, je vais essayer de conclure maintenant. Je ne vais pas évoquer la question de l'histoire de ce rituel, de ses origines anciennes, de comment il a été adapté à l'islam. Mais la question qui m'a paru intéressante, c'était peu importe la signification que lui donnent les musulmans. Quel rôle joue ce sacrifice, si on essaye de réfléchir, quel rôle peut jouer ce sacrifice, s'il est là, c'est qu'il remplit quand même un certain nombre de fonctions. Quelles sont ces fonctions? Quelle est la fonction que remplit ce sacrifice dans le monde islamique, dans les sociétés d'islam, là où il est pratiqué en tout cas? Alors je dois vous dire que j'ai hésité, ou en tout cas je parle au passé, hein. Je ne parle pas au présent, ce qu'il en est aujourd'hui. Il me semble qu'il y a deux hypothèses. D'ailleurs il y a une hypothèse qui a été abondamment développée par un docteur de la loi musulman du XIVe siècle. Cette première hypothèse consiste à dire qu'il s'agit d'un rite de... Je ne sais plus comment on dit le terme, m'échappe. D'un rite de protection. Il s'agit de protéger l'enfant des menaces des menaces notamment des mauvais esprits, hein, qui peuvent conduire à sa mort. Et là, il y a cet auteur du XIVe siècle qui a écrit un opuscule sur cette question-là. Il a ramassé les traditions et ensuite il a donné sa propre interprétation. Il dit qu'il y a une... Alors, il s'agit d'une femme, ou alors d'un être féminin, plutôt qu'une femme. Un être féminin qui guette les enfants à leur naissance. Je ne me rappelle plus le nom qu'il lui donne à cet être féminin, qui guette les enfants à leur naissance pour s'emparer d'eux, hein, pour les tuer. Et donc, le rituel viserait à éviter cette menace. Mais en même temps, cet auteur qui avait quand même des connaissances médicales, c'était un théologien, mais il avait des connaissances médicales parce qu'il lisait tout, les théologiens. Tout ce qui leur tombait sous la main, ils le lisaient pour l'utiliser. Il disait, oui, mais on remarque qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent le septième jour, autour du septième jour, et donc c'est pour ça qu'il faut le faire le septième jour. Et il y a une deuxième interprétation qui me paraît la plus intéressante, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans une société ou dans des sociétés patrilinéaires dans lesquelles la filiation passe uniquement par les hommes, mais néanmoins l'enfant, le nouveau-né peut apparaître comme venant d'ailleurs, hein, et qu'il faut en quelque sorte agréger au groupe paternel. Et donc ce serait un mode d'agrégation de l'enfant, du nouveau-né, à son groupe paternel. Il n'y a pas de... La circoncision n'est pas un rite... C'est un rite qui a lieu tardivement en islam et n'a pas lieu à la naissance. Hein. Il n'a pas cette fonction. Elle n'a pas cette fonction, la circoncision. Il y a des sociétés dans lesquelles la circoncision a lieu à 7 ans. Hein. On a notamment des sociétés africaines, hein. Je crois que Jean Rouch a fait un film sur ça, à 7 ans, donc c'est un âge assez avancé, même si c'est lié à l'organisation des classes d'âge et tout. Hein, ça c'est... Donc, l'interprétation qui m'a paru la plus probable, la plus vraisemblable, c'est l'agrégation du nouveau-né donc, au groupe paternel. Voilà, j'ai terminé.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.